Vie locale et associative. Culture et société. Politique. Et même du sport. Du lundi au jeudi, le pédalo, la quasi quotidienne d'infos estivales de Radio Campus Angers.
18h04 sur les ondes de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à bord du pédalo. On est un peu en retard aujourd'hui, mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on est le 27 juillet. Et le 27 juillet, c'est la dernière du pédalo. J'ai la tristesse de vous annoncer que Radio Campus Angers part se reposer. Pendant 3 semaines, nous vous laisserons vivre les plus beaux moments de notre année avec des rediffusions de vos programmes favoris. Pendant ce temps-là, nous serons ici et ailleurs à nous ressourcer pour revenir plus que jamais en forme le 4 septembre. Alors pour la dernière de l'année, ajustez votre gilet de sauvetage. Au programme ce soir, détente, nature et découverte. Avez-vous déjà pris conscience du grand tout qui nous entoure? Eh bien, c'est ce que vous permettrait le Qigong, une gymnastique traditionnelle chinoise qui associe mouvement lent, exercice respiratoire et concentration. On en parle avec Claudine Pignet, professeure de Qigong, qui propose des ateliers un peu partout dans les départements tout l'été. En deuxième partie d'émission, pour la dernière chronique de la saison, on écoutera Thomas qui nous racontera la première grève d'internet, c'est la crise chez Reddit. Ajustez votre gilet de sauvetage, donc le pédalo met les voiles.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Jusqu'à la fin du mois d'août, dans à peu près tout le département, si je ne m'abuse, plutôt dans la région angevine, l'association Qinature 49 propose à toutes et à tous des séances de Qigong. Et avec nous pour en parler, Claudine Pignet, bonsoir.
Bonsoir.
Peut-être pour commencer en quelques mots, on va définir ensemble ce qu'est le Qigong. Alors selon le Larousse, je cite, le Qigong est une discipline traditionnelle chinoise fondée sur la libération de l'énergie vitale associant mouvement fluide, exercice respiratoire et concentration de l'esprit. Sa discipline serait née en Chine dès le 5e siècle au sein d'un monastère de moines Shaolin. Est-ce que vous pourriez nous présenter pour vous, Claudine Pignet, ce que c'est le Qigong pour vous?
Ok, alors je pourrais commencer par dire que qi, ça veut dire énergie, et gong, c'est travail, méthode.
Travail, effort.
Voilà, c'est la manière de faire circuler l'énergie. Donc c'est une pratique ancestrale, gymnique, mais pas que, puisqu'on associe... On associe un mouvement, c'est ce que vous avez dit à l'instant, un mouvement avec une intention, donc c'est la conscience de l'esprit sur certains points. Je vais vous en parler tout à l'heure de ces points, justement. Donc c'est mouvement, intention et le souffle, la respiration. Voilà, c'est l'harmonie en fait de tout ça, de ces trois choses. Ça passe par le corps, le mouvement, mais ça peut être aussi statique. Voilà, en quelques mots, mais on va pouvoir développer.
On va développer. Pour vous, qu'est-ce que ça représente dans votre vie personnelle, le Qigong?
Alors, je crois qu'il n'y a pas trop de hasard, en fait. La première fois que j'ai fait du Qigong, j'ai beaucoup pleuré. C'était énorme pour moi. Il fallait que ça correspondait à un changement de vie qu'il fallait que je fasse. Avant, en tant qu'élève, j'avais fait de l'aïkido, mais j'avais déjà plus de 40 ans. Oui, 40 ans, on va dire. 40 ans. Après, j'ai fait donc du tai chi. Et puis, ma prof de tai chi avait invité son prof de Qigong. Et là, ça a été énorme pour moi, en fait. Et il m'a fallu un an pour me décider. Donc, en fait, le Qigong, c'est pas qu'une pratique donc gymnique. C'est aussi la gestion de ses émotions. Comment dire, on n'a pas assez d'une vie pour tout apprendre, hein, parce qu'il existe plus de 650 séries de Qigong, donc moi j'en connais pas mal, mais c'est petit par rapport à tout ce qu'il peut y avoir.
Une série de Qigong, c'est une série de mouvements, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ouais. Mouvement ou statique, mais souvent c'est en mouvement.
Hein. Donc vous l'avez dit, mais je vais le repréciser, le qi en français c'est le mot mandarin qui indique l'énergie vitale, tandis que le gong signifie travail, effort, le qigong, donc ça nous permettrait de nous faire travailler notre énergie vitale, si jamais je reviens au sens premier de qigong.
Ça développe en tout cas l'énergie vitale, notre conscience.
Qu'est-ce que vous appelez l'énergie vitale?
Alors moi, je dis pas forcément l'énergie vitale, mais l'énergie vitale, le réceptacle de l'énergie vitale, alors dans certains, on trouvera que ça se passe au niveau des reins, parce que c'est plutôt l'énergie ancestrale, en fait. Et l'énergie vitale, eh bien, ça se passe au niveau de l'abdomen, sous le nombril, ce qu'on appelle le dantian. Après, dans le yoga, ce qu'on appelle des chakras, hein, c'est la même chose, c'est les mêmes points, mais ce n'est pas les mêmes noms.
Oui, parce que le Qigong est à la Chine, ce que le yoga est à l'Inde.
Exactement, c'est ça. Après, il y a eu beaucoup de voyages, hein, quand même. Il y a eu aussi du Qigong en Inde, évidemment, mais c'est ça, exactement. Le Qigong, ça fait partie de la médecine traditionnelle chinoise. Ouais. C'est pour ça aussi que je m'y intéresse énormément.
Alors justement, le Qigong lié à la médecine traditionnelle chinoise, mais faisons un petit point historique. L'État communiste, puis ensuite les médecins chinois modernes, appellent eux-mêmes, je cite, à l'abolition des superstitions quand ils parlent du Qigong. Bon, évidemment, c'est assez virulent. C'est quoi le lien entre le Qigong et la Chine ?
Alors là, c'est une question tellement large, vais-je savoir y répondre ? Alors c'est vrai qu'il y a eu dans l'histoire de la Chine plusieurs, parce qu'on parle de Qigong, la philosophie en fait, c'est aussi une philosophie. Moi en tout cas, c'est ça qui m'intéresse le plus, même si à certains moments, le pouvoir a pu s'en servir pour... au moment des guerres, par exemple. Hein. Parce qu'il y a quand même une puissance qu'on peut développer. Parce que le Qigong, c'est aussi un art martial. En fait, il y a plusieurs branches. Dans le Qigong, il y a plusieurs... donc moi, la philosophie, hein, confucianisme, bouddhisme, taoïsme... et puis aussi par rapport à tout ce qui est médical. Il y a du Qigong, donc taoïste, il y a aussi martial, etc. Donc on a, pendant des guerres, on a beaucoup développé le Qigong martial notamment, et l'esprit fort, puissant, vraiment érigé vers un but ultime, je dirais. Voilà, c'est vrai que c'est pas ce que moi je développe, loin de là, mais c'est peut-être la puissance qu'on peut avoir, l'ancrage, l'enracinement, voilà, c'est un développement, sa force, sa puissance mentale, physique, hein. Ça m'intéresse aussi beaucoup au corps, l'organisme, hein, etc.
En tout cas, c'est vrai que le Qigong a une histoire particulière avec la Chine, puisque d'abord il a été un élément de la culture traditionnelle chinoise, puisque voilà, comme on l'a dit en introduction, le Qigong est né dans un monastère Shaolin. Mais ensuite, il a été persécuté, notamment à partir de 1970 et la révolution culturelle de Mao Tse-tung. Pour ensuite devenir une sorte d'élément de soft power à partir des années 80. Et c'est un mouvement qu'on a appelé la fièvre du Qigong, avec toutes les images qu'on peut avoir du Qigong dans notre imaginaire, hein, ses pratiques collectives dans les parcs et les stades. Le Qigong a une histoire assez mouvementée. Est-ce qu'il y a un message politique derrière la pratique du Qigong aujourd'hui, tel que vous la pratiquez ou qu'elle peut être pratiquée en Chine, et si oui, quel est-il ?
Alors moi, à mon niveau, aucun, parce que je suis pour la libre pensée, vraiment, et puis l'école que j'ai suivie, on fait partie d'une fédération de profs de Qigong, la FQGAE, maintenant ça s'appelle Union Pro Qigong, bon c'est vraiment très important, puis moi c'est une base quoi, c'est vraiment la conscience qu'on va développer, mais chacun est dans sa liberté. Moi, c'est plutôt humaniste, hein, ce que je développe. C'est pas, du coup, je prône pas de religion. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de développer la culture, de comprendre le confucianisme, le bouddhisme, le taoïsme, toutes ces différentes branches. Mais pour revenir à ce que vous disiez à l'instant, dans les années 1970, il existe donc un Qigong que moi, je pratique et c'est le Qigong de Madame Gao Ling. Et c'est une femme, donc on dit que c'est un Qigong contemporain, hein, parce qu'il y a toujours des gens qui Il y a le chant Qigong ancestral, et puis comme Qigong de Madame Gaoling, je connais encore un autre maître qui a développé du Qigong, qu'on appelle ça du Qigong contemporain. Elle était interdite, elle devait se cacher, justement, dans ces années-là. Et puis après, ça a été ouvert, mais voilà, c'était un Qigong...
Qu'est-ce qu'il a de particulier, ce Qigong?
Alors, elle, c'était un Qigong... dit thérapeutique, pour du coup plutôt orienté vers les personnes malades de cancer. Voilà. Et elle le pratiquait dans les parcs avec donc des pratiquants, mais c'était pas quelque chose qu'elle pouvait faire de manière libre, en tout cas pendant un moment, et puis après ça a été ouvert.
Mais vous dites à destination des personnes atteintes de cancer, on est d'accord que le Qigong ne soigne pas?
Non, c'est vraiment, on ne peut pas dire à quelqu'un, et puis ça serait vraiment
malhonnête
pour moi de dire vous ne suivez aucun traitement. Non, chacun est libre et de se faire soigner par des méthodes que nous en France
occidentale,
c'est ça, conventionnées. Par contre, c'est intéressant d'utiliser ces pratiques en complément parce que ça nous fait bien respirer, c'est la détente, la relaxation, la circulation de l'énergie, et puis de comprendre aussi sa conscience corporelle aussi, comprendre comment ça peut fonctionner. Les organes avec le flux sanguin, etc. Et puis, l'esprit, c'est pour ça, je l'ai dit tout à l'heure, que c'est l'harmonie du souffle, de la respiration, de l'intention. Voilà, c'est vraiment important d'éliminer le stress, en tout cas, d'irradier un petit peu tout ce qui peut... Puisqu'il y a eu des études, plusieurs études de fait, qui ont prouvé que des gens qui sont angoissés, stressés, engendrent beaucoup plus de maladies que des gens qui sont posés. Et la méditation, par exemple, contribue à ça, au calme de l'esprit. Au Qigong, on fait aussi de la méditation, mais c'est faire circuler l'énergie, c'est toujours pareil, mais en statique.
Tout ce que vous êtes en train de nous raconter, vous l'avez appris à l'occasion de formation. Et à la fin de cette formation, vous avez reçu un diplôme qui vous a été délivré par l'État chinois. Pour vous, c'est ce que vous me disiez hier au téléphone?
Pas tout à fait.
Alors, racontez-moi.
Pas tout à fait. Donc, j'ai eu un cursus de 3 ans dans une école. Donc, c'était en Indre-et-Loire. C'est l'école du centre Tao. Et donc cette école, elle fait partie de la fédération, ce que je disais, Unieux Pro Qigong, avant c'était la FQGAE. Et donc, au bout de 3 ans, j'ai eu un diplôme. Et puis ensuite, j'ai dû quand même passer un CQP pour être reconnue.
Un CQP?
Oui, certificat de... CQP, certificat de qualification professionnelle, c'est ça, reconnu par l'État français.
D'accord. Hein,
voilà. Et pour être animateur sportif. C'est ça, moi je suis animatrice sportive, mais prof de Qigong.
D'accord.
Et sinon, c'est très important quand on est prof de Qigong de se former tout le temps. Et moi, j'ai suivi du coup plusieurs formations, notamment, avec l'État Qigong. L'État chinois, c'est eux qui venaient en France. Et donc, j'ai passé 3 douanes. Des douanes, des danes, tout dépend comment...
D'accord, donc ce que vous appelez, c'est les niveaux de certification.
Oui, ça. Ouais. Après, pour les autres, il faut parler la langue. Donc, je n'ai pas encore... Et on peut passer un douane tous les 2 ans. Et c'est intéressant parce que quand on passe un deuxième, on doit repasser le premier. C'est vraiment intéressant. Ça veut dire qu'on ne s'endort pas. Il faut toujours apprendre, toujours être en action et toujours redistribuer aussi. C'est important aussi. Et l'enseignement, c'est aussi donner, quoi. Juste pour terminer, j'ai fait d'autres formations avec d'autres profs, d'autres maîtres. Mais moi, j'utilise pas trop le mot maître, mais bon, des gens un petit peu plus très qualifiés, on va dire, et avec des thématiques particulières. Et puis notamment, j'ai fait une formation pour exercer le Qigong auprès de personnes à mobilité réduite.
On en parlera, on va en parler juste après. Okay. Et c'est intéressant, j'aimerais revenir justement sur ce que vous disiez auprès d'autres maîtres, mais vous n'employez pas le mot maître.
Non, pas trop, c'est vrai.
Vous faites partie, donc vous l'avez dit tout à l'heure, de la FQGAE, la Fédération de Qigong Art Énergétique. Donc cette fédération a publié une charte d'éthique, on en a un petit peu parlé au téléphone tous les deux hier en préparant cette interview, une charte d'éthique qui est destinée à protéger et promouvoir une pratique de Qigong de qualité et dès le troisième point est évoqué de possibles dérives concernant, et je cite, une pratique abusive du Qigong. Et pareil, il faut évidemment condamner, cette charte condamne les attitudes ou influences sectaires vis-à-vis des publics. Et ça, c'est dès les troisième et quatrième points de cette charte. Je voudrais vous poser une question dont on a déjà un petit peu parlé tous les deux hors micro, mais pourquoi est-ce que c'est important dans la pratique du Qigong de mentionner aussi vite et aussi explicitement ces possibles dérives? Est-ce que ce sont des choses qui pourraient arriver?
Je pense que ça peut arriver, oui, certainement. Et puis, ce qui est important, c'est de... alors moi, c'est vrai que je m'intéresse au public vulnérable, hein, parce que je suis éducatrice à la base. Donc, voilà. Donc, les personnes avec handicap, les personnes fragiles, voilà, je suis sensible, hein, en fait. Mais, justement, voilà, des personnes pourraient avoir de mauvaises intentions, justement, auprès de personnes peut-être plus fragiles pour les embarquer dans des... je sais pas, moi, dans des choses qui ne conviendraient pas, hein, mais c'est tellement loin du Qigong que, moi, j'ai appris.
Oui,
et c'est vrai que quand j'étais en formation, on a eu une journée, en fait, sur cette thématique-là, hein, parce que c'est important de développer la conscience des gens, mais le libre arbitre... Voilà, c'est pas du tout dogmatique, loin de là, tout cas.
Et pour la petite histoire, chers auditeurs et auditrices de Radio Campus Angers, il y a évidemment mille et une branches dans le Qigong, et notamment une dont je voudrais vous parler, qui n'a rien à voir avec votre pratique, hein, Madame Pigné, mais qui s'appelle le Falun Gong, dont on a un peu parlé au téléphone. Le Falun Gong qui propose un spectacle qui s'appelle Shen Yun, et si jamais vous habitez dans une grande ville, vous avez forcément dû voir des grandes affiches tapisser les arrêts de métro, tram et bus. Ce spectacle, en fait, ce courant du Qigong, le Falun Gong, propose du Qigong en ajoutant à la méditation un aspect assez mystique et un moralisme rigoureux. Et par ailleurs, certains aspects de cette branche du Qigong sont pointés du doigt par l'UNADFI, l'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu Victimes de Sectes, qui dresse une longue liste des caractéristiques du mouvement qui pourrait relever de dérives sectaires comme l'embrigadement des membres, le refus de soins, la rupture avec l'environnement d'origine ou encore l'omnipotence du gourou. L'association relève au passage les théories violentes, racistes et homophobes du fondateur de ce mouvement, donc du Falun Gong. Donc méfiance quand vous allez voir ce spectacle Shen Yun et soyez ouverts à ce que... Allez le voir si vous êtes curieux et curieux, mais restez ouverts à ce qu'il y a derrière. Évidemment, on est très loin de votre pratique, hein, je le redis encore une fois.
C'est vrai.
vous avez plutôt donc... vous êtes plutôt dans l'accompagnement bien-être des pratiquants et vous avez commencé à le mentionner, vous accompagnez des personnes en situation de handicap. Comment est-ce qu'on propose du Qigong à des personnes en situation de handicap?
Alors le Qigong en fait s'adapte je dirais à tout le monde. Il faut être beaucoup à l'écoute en tout cas de nos pratiquants. Et puis, quand je m'adresse à des personnes avec des difficultés, mobilité réduite, handicap, généralement, c'est vraiment un petit groupe pour être vraiment plus, plus à l'écoute. Y a des personnes qui sont en fauteuil, d'autres qui ont une mobilité plus fragile, etc. Alors, je peux utiliser aussi du matériel pour aider dans le mouvement, des balles, des ballons notamment, pour développer aussi la fluidité dans le bassin, pour comprendre un petit peu, justement, des fois, avec ces ballons, ces balles, ça aide un petit peu à comprendre... le mouvement, le flux, enfin ce qu'on essaye de développer, la concentration, par exemple, on parle beaucoup de Qigong, la boule d'énergie, des fois, on la on la visualise, hein, c'est de la visualisation aussi, conscience, concentration de l'esprit. Bon, bah, des fois, d'avoir un ballon dans les mains peut aider à comprendre justement que le ballon gonfle, les mains s'éloignent, et puis justement de presser le ballon, voilà, de comprendre le plein, le creux, le vide, le yin et le yang, c'est tout ça. Mmh. Mais après, pour des personnes, tout dépend des personnes. Il y a le langage aussi qui est adapté, hein, c'est beaucoup plus oui. C'est moins théorique, on va dire.
Là, les cours que vous proposez tout l'été, qu'est-ce qu'on y fera? Est-ce qu'ils sont ouverts à toutes et à tous, également aux personnes en situation de handicap, ou est-ce que c'est des séances plutôt spécifiques que vous proposez?
Alors, les estivales, c'est ouvert à tous, aux enfants notamment, à partir de 8 ans, mais des enfants accompagnés, et puis des enfants qui ont envie, évidemment.
Évidemment.
Ouais, parce que voilà, des enfants qui sont en capacité de suivre une séance. Et c'est pas une séance pour les enfants, donc c'est vraiment pour tout le monde. Donc ça veut dire qu'il faut que les personnes qui viennent puissent s'adapter au groupe, je dirais, hein, parce que moi je m'adapte à tout le monde, mais il faut aussi avoir une voilà.
Il y a une vraie conscience de groupe.
Oui, voilà, c'est ça. Mais en même temps, groupe, mais formé d'individus. Donc chacun, je dirais, est dans son espace à lui. Et du coup, quand je montre un exercice, donc la base d'un exercice, et ben après cet exercice-là, je rajoute autre chose, je rajoute autre chose, donc en fonction des personnes qui peuvent le faire, et ça va s'améliorer comme ça. Voilà, ça peut se développer ou pas, tout dépend de la capacité vraiment de chacun. Il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de... Voilà, de faire mieux ou moins bien que l'autre, c'est... Voilà, puis c'est d'être dans le ressenti aussi, c'est important... Qigong. Donc les estivales, voilà, ça s'adresse à tous. Et puis aussi, les gens sont en vacances, donc c'est détendre, c'est apprendre le lâcher prise. C'est des bases en fait. Hein. Les gens vont pas apprendre une série en une heure, hein, parce qu'ils sont pas là forcément pour suivre toutes les séances. Donc c'est l'ancrage, la posture de base, accueillir son souffle, prendre la conscience donc de sa respiration. Et puis après, bah, je fais des exercices pour développer la fluidité. Souvent du mouvement, et puis voilà le bien-être. Voilà, il y a plein d'exercices possibles.
Où est-ce qu'on peut, parce que donc vous proposez des ateliers un peu partout dans le département, dans la région angevine, où est-ce qu'on peut retrouver toutes ces informations? Vous avez un Facebook sur lequel on peut aller vérifier ça?
Il y a un Facebook, il y a surtout un téléphone, parce que...
Alors allez-y, voilà, donnez-le.
Le téléphone, c'est 06 81 74 91 35, voilà, pour avoir des infos. Après, il y a un Facebook, on n'est pas très très bien à la référencer. Voilà, si vous tapez Qigong, Qigong, Qi Nature Anjou, Qi Nature 49, voilà, ou Qi Nature 49, vous allez trouver, parce que l'association s'appelle Qi, donc c'est QI Nature 49. Ou si vous tapez Claudine Pigné aussi, vous trouverez des choses. Voilà. Et puis, bah, sinon, les estivales, c'est 7 lieux et 9 séances. Donc, à Angers, bah, ça se passe. Le rendez-vous, il est à la guinguette du Héron Carré. Et puis après, on va aller dans la nature, dans le parc Balzac. Donc là, il y a 2 séances. Ensuite, il y a la guinguette à Saint-James-sur-Loire. Port Thibault. Donc, c'est toujours dans des lieux de convivialité, mais de lieux de nature. Voilà.
Pour toutes les informations, donc, n'hésitez pas à aller sur le site de Radio Campus Angers, sur lequel il y aura toutes les informations, et également sur les réseaux sociaux de Qinature 49 et sur ceux de, sur le vôtre, hein, Claudine
Pigné.
Voilà,
et puis le Héron Carré, les guinguettes, puis, là où je suis, normalement, voilà. Il y a aussi une info. Voilà.
Ben, merci beaucoup. En tout
et
cas,
puis,
Claudine
toute l'année, il y a des cours aussi. Hein, si, voilà,
toutes les informations donc, sont à retrouver un peu partout sur Internet et sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Claudine Pigné, d'avoir répondu à nos questions sur les ondes de Radio Campus Angers. Tout de suite, on se laisse en musique et pour la dernière de la saison, je vais faire une petite dédicace à mon cher papa. On écoute un morceau de Nguyen Le, un guitariste vietnamien qui utilise sa guitare électrique comme un monocorde. C'est un morceau issu de l'album Moon and Wind. Il est accompagné du trompettiste italien Paolo Fresu et de la chanteuse Huong Tan. On écoute le morceau Soaring of the Heron sur les ondes de Radio Campus. Thank you. Voilà, c'était le morceau The Soaring of the Heroes sur les ondes de Radio Campus Angers, un morceau de Paolo Fresu, de Nguyen Le et de la chanteuse Huong Tan, voilà, issu de leur album Moon and Wind. Voilà, toutes les infos évidemment seront à retrouver sur le site internet de Radio Campus Angers.
Le pédalo sur Radio Campus Angers.
Et avec nous, pour continuer cette émission, on est hyper à la bourre, il est déjà 18h35, 33 exactement, et on est toujours là, mais c'est bien, on prend du bon temps, on est heureux. Avec nous dans les studios, Thomas, salut Thomas.
Bonjour, bonjour à tous.
Donc tu vas nous parler d'un sujet un peu particulier, parce que depuis plusieurs mois maintenant, le réseau social Reddit, est à feu et à sang, j'en perds mes mots. Reddit regroupe différents forums de discussion et avec une particularité, c'est que le rapport avec une particularité, j'en perds décidément mes mots, c'est la dernière de la saison, Thomas.
Oui,
t'es quand même
vrai.
Heureux d'être ici.
Oui, oui, bah bien sûr, pour la dernière.
Donc, je recommence. Reddit, c'est un site qui regroupe différents forums de discussion et avec une particularité par rapport à tous les autres forums que la Terre peut compter, c'est que Reddit laisse la création de forums en complet libre service et là, surprise incroyable, Reddit connaît la première grève d'Internet.
Exactement. Depuis maintenant plusieurs mois, le site Reddit fait face à une grève. Les bénévoles en charge des forums ont bloqué l'accès de ceux-ci, rendant toute publication impossible.
Et donc des bénévoles ont bloqué l'accès aux forums, incroyable, contre qui est-ce qu'ils protestent ?
Alors, les différents acteurs de ce mouvement social sont, d'un côté, nous avons Steph Huffman, PDG de Reddit, et de l'autre, tous les bénévoles qui font tourner le réseau. Parce que oui, Reddit est essentiellement un réseau social qui se base sur le bénévolat pour créer, nettoyer ainsi que protéger les différents forums.
Mmh, incroyable, c'est pas courant qu'un site entier soit géré par des bénévoles. Pourquoi est-ce qu'ils sont en grève ces bénévoles ?
Eh bien, j'y arrive justement. En avril dernier, Reddit, réseau social très populaire, décide de rendre ses API payants. Et là, tout le monde se dit,
c'est quoi des API ?
C'est quoi API ? Les API sont des programmes dans une application qui permettent de faire tourner d'autres applications dans la vôtre. C'est pour cela, par exemple, qu'il est possible d'avoir un bouton Twitter sur le site de Radio Campus Angers.
Voilà, sans que, évidemment, Radio Campus Angers ne soit au courant du code de Twitter. On ne peut pas voler le code de Twitter malgré le fait qu'on intégré le bouton. Alors, pourquoi rendre les API payants est un problème pour les utilisateurs et les bénévoles ?
Pour un utilisateur comme vous et moi, cela veut dire que des applications internes à Reddit et très convoitées comme Apollo ne sont plus disponibles. Pour ceux qui n'utilisent pas Reddit, Apollo est une application interne au site vous permettant d'éviter les publicités et les pop-up. C'est embêtant, oui, mais ce n'est pas une fin en soi. Alors pourquoi tous les utilisateurs de Reddit semblent aussi insatisfaits de cette décision ? Et là est tout le problème. Apollo ne sert pas simplement pour les simples utilisateurs lambda, mais aussi pour tous les bénévoles qui s'occupent de l'entretien des forums présents sur la plateforme. Car oui, Reddit ne met pas en place une modération et a notamment une fonctionnalité qui a été rajoutée par les bénévoles eux-mêmes pour faire en sorte d'avoir une modération sur les forums. Car oui, Reddit ne met pas en place une modération à proprement parler. Donc, ce qui veut dire que Reddit rend une application comme Apollo payante pour des gens qui bénévolement se donnent corps et âme pour rendre le site plus vivant et mieux contrôlé.
Alors, pourquoi Reddit a tout d'un coup décidé de rendre Apollo payant ?
Car, mon cher Hugo, Reddit va bientôt rentrer en bourse. Ce qui veut dire que pour rentrer en bourse, il faut de l'argent. Et Reddit arrive à faire de l'argent grâce à une chose, les pubs.
Et comme Apollo est un bloqueur de pubs, évidemment, tout s'explique. Parce que si Reddit veut faire plus d'argent, bah, il va évidemment supprimer l'outil qui permet au plus grand nombre d'utilisateurs d'éviter les pubs pour donc avoir une meilleure entrée en bourse.
Exactement. Et là, on a la source de notre problème. Pour avoir une meilleure entrée en bourse et pouvoir générer plus d'argent, Reddit doit trouver un moyen rapide et efficace pour gagner de l'argent rapidement. Le choix d'augmenter le nombre de publicités a donc été pris, privant au passage tous ces bénévoles d'un outil majeur.
Et pourquoi est-ce qu'on ne peut plus poster de vidéos ou de photos sur certains forums ?
Eh bien, là est toute la grève. Car pour pouvoir un système qui se base sur le volontariat et le bénévolat, il faut laisser beaucoup de liberté d'action aux bénévoles pour qu'ils puissent mener à bien leur mission. Les bénévoles, suite à cette annonce, ont donc tout simplement fermé l'accès de certains forums et limité l'accès ou les postes sur les autres. C'est une sorte vraiment de manifestation en ligne, de blocage complet.
Et c'est une situation qui semble bloquée hein, vraiment aujourd'hui.
Oui, tout à fait. Aujourd'hui, les différents forums sont toujours inaccessibles. Et avec l'approche de l'entrée en bourse, la situation ne fait que s'aggraver. Couplé à ça, une très mauvaise communication de Reddit et vous avez une situation tendue. Avec le fait que Steph Huffman, qui utilise les mêmes arguments que Elon Musk dans tous ses choix, ce qui le rend très prévisible. Par exemple, tout comme Elon Musk avait fait pour l'API de Twitter, Steph Huffman met en avant le fait qu'il y aurait des IA incontrôlées et qu'en rendant payant ses forums, cela permettrait de mieux contrôler ses intelligences artificielles.
Et alors en fait, la vraie question c'est, est-ce que Reddit est en mesure de prendre une telle décision alors que la majorité des personnes qui font tourner le site le font de façon bénévole ?
Exactement.
Donc en fait, Reddit va vraiment rentrer en bourse.
Reddit va vraiment rentrer en bourse.
Contre l'avis de tous les bénévoles.
Exactement.
Qui font vivre le site.
Exactement.
Donc c'est la grève.
Donc c'est la grève.
C'est
le blocage.
Donc c'est le blocage. Eh bien écoutez, au moins vous en saurez un peu plus sur la culture d'Internet pour vos vacances. Merci beaucoup Thomas pour cette dernière chronique de la saison. Et le pédalo termine donc sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis toute cette saison. Un grand merci à Étienne, mon cher collègue programmateur, pour cette saison riche et intense. Merci également à Mathieu et à l'intégralité de nos bénévoles. Une bise évidemment à notre président Emeric et tous les membres du conseil d'administration. Un gros bisou particulier aux volontaires en service civique. Que je ne renomme pas, hein, évidemment, mais ils se reconnaîtront. Nous, on se retrouve dès le 4 septembre pour le retour du pédalo. Et d'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.
Une émission à retrouver en podcast sur le www.radiocampusangers.com.